Ben voilà, je suis venu de sortir enfin de ce carcan de journalistes qui m'ont étouffé, mais que j'ai un peu bousculé parce qu'en fait, moi je voulais aussi avoir le président de la Croatie qui a été superbe. Voilà, donc je suis revenu à mon stand de Chasse-Marée et je suis retombé sur un ami et sur un copain maintenant, parce qu'en fait tu es parti de la rue. Et ce sont des personnages assez extraordinaires parce qu'apparemment ce sont des scientifiques, il y en a un qui a écrit un bouquin, l'autre qui est frommeur et tout. Mais moi je ne suis pas assez féru pour vous expliquer à leur place. Alors moi je vais commencer par un qui va se présenter et me parler de son bouquin.
Oui, bonjour, je suis Joseph Kovic, un bigoudin d'origine du Guilvinec, dans le sud Finistère. Et j'ai navigué donc sous les navires de recherche de l'Ifremer en tant qu'officier de navigation de 1977 à 1997 pendant 20 ans. Et j'ai participé en particulier aux missions qui ont permis la découverte d'une part en 1985 du Titanic à bord du Suroît, le navire de l'Ifremer, avec Bob Ballard qui était à bord également. Et ensuite, j'ai participé également aux missions d'exploration de l'épave du Titanic avec le navire et le submersible Nautile. Donc ce sont des missions très intéressantes auxquelles j'ai participé et que je raconte dans le livre que je viens de publier.
Quel titre est là ?
Et il s'appelle « Mission Titanic, découverte, exploration de l'épave ». C'est publié aux éditions Armendu, qui est situé à Triglonou, près de l'Anilis.
Et que fais-tu ici ?
Et je suis venu ici donc pour faire une exposition sur le Titanic en particulier, en montrant des panneaux, des photos de l'exploration de l'épave et puis de la découverte, et ainsi que pour parler des Français du Titanic, parce que beaucoup de gens ignorent qu'il y avait autant de Français à bord du Titanic. En particulier, il y avait 51 Français, 18 membres d'équipage au service restaurant, uniquement au service restaurant à la carte, dont le chef cuisinier Pierre Rousseau, sur lequel il y a eu environ, sur 18 membres d'équipage, il y en a un seul qui a réussi à se sauver. Et parmi les 33 passagers, où il y avait des gouvernantes et au service de riches familles américaines, il y a une dizaine de personnes qui ont réussi également à se sauver.
Alors je vais me retourner un peu vers Pierre, là, qui en fait est aussi un scientifique, et qui a l'air de connaître un peu ce rayon. Alors explique-nous.
Alors moi, donc je m'appelle Pierre, je ne suis pas natif de Bretagne, mais j'habite Brest depuis 1978, et donc j'ai travaillé en océanographie à peu près une trentaine d'années. Et je suis actuellement le responsable scientifique de l'Agence des aires marines protégées qui est située sur le port de Commerce.
Et ça veut dire
Ça veut dire les aires marines protégées, c'est par exemple le parc naturel marin d'Iroise, ou c'est les zones Natura 2000, donc c'est une gestion des activités un peu plus respectueuses de la ressource et de l'environnement.
Et combien il peut y avoir de plantes, combien il y a, c'est par milliers, c'est par centaines?
Alors c'est protéger des espèces, d'algues, protéger des animaux, protéger des fonds marins.
Quels animaux par exemple?
Les mammifères marins par exemple, les phoques et les dauphins de la mer d'Iroise par exemple.
Ils sont nombreux.
Fameuses langoustes.
Elles sont nombreuses?
Ah, elles sont nombreuses, oui. Ils habitent là, il y a des populations qui habitent en permanence.
Et dans quel coin environ?
Ah, alors les phoques du côté des pierres noires. Et puis, les dauphins du côté des pierres noires, les phoques plutôt du côté de Molène.
Et c'est dû à quoi, en fait, qu'ils soient là?
Parce que le milieu est très très riche, c'est sublime la mer d'Iroise. Et donc, ils goûtent beaucoup à être là, ils aiment beaucoup. Et en plus, ils trouvent une ressource en poissons extrêmement abondante, dans un milieu jusque-là préservé. Donc d'où l'origine de la création de ce parc d'Iroise.
Alors, qu'est-ce que tu crains autrement si ce ne se fait pas?
Alors moi, je ne m'occupe pas spécifiquement du parc d'Iroise. Je m'occupe donc de la partie scientifique, acquisition de données, programme de connaissances, mais non seulement dans le coin de Brest et en métropole, mais aussi dans le reste de la zone économique exclusive française, c'est-à-dire 11 millions de kilomètres carrés. Je pense que j'en ferai qu'un petit bout avant de prendre ma retraite.
Ça veut dire?
Ça veut dire que, par exemple, on est en train de compter des mammifères marins aux Antilles, en Guyane, qu'on va monter une mission un peu plus aventureuse du côté des îles Éparses dans l'océan Indien, qu'on va essayer après le Pacifique.
Je sais pas, c'est le mondialiste ou ça, là?
Ouais, c'est la World Company. C'est une jeune agence, donc c'est la World Company, ouais.
Mais la population qui gravite autour de dans la mer d'Iroise, c'est pour combien?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les activités en mer d'Iroise sont extrêmement variées. Tu as aussi bien les scoubidous, la pêche des algues, que la pêche professionnelle, que la pêche plaisancière, que des gens qui font de la voile comme moi, mais juste avec une ligne à macro, hein, que des gens qui vont visiter les îles. Donc c'est extrêmement diversifié. Il y a plein de monde et ce qu'on essaye, c'est que toutes ces activités, disons, ne soient pas contradictoires entre elles, gèrent leurs intérêts en commun, même si parfois les intérêts sont très contradictoires.
Alors, je vais laisser se reposer un peu Pierre parce qu'en fait je l'ai percelé. Maintenant je vais revenir vers toi. Oui. Rappelle-moi ton prénom.
Joseph.
Qu'est-ce que tu as à dire en plus de ce qu'il vient de dire? Et on va revenir au Titanic après.
Oui. Que j'ai beaucoup aimé de naviguer sur les navires de recherche de l'Ifremer avec des escales superbes à Brest. Et tous les Brestois se rappellent très bien de ce fameux bateau, le Jean Charcot, qui était un navire sublime, où beaucoup de scientifiques et de marins gardent un excellent souvenir de ce navire. J'ai beaucoup navigué sur le Jean Charcot, en particulier pendant le tour du monde du Jean Charcot, que nous avons fait pendant 4 ans, de 1983 à 1987. Et avec une mission particulière que je raconte d'ailleurs dans mon nouvel ouvrage que je viens de publier, le dernier qui vient de publier.
Il y a plusieurs ouvrages en plus.
Il y a un nouvel ouvrage qui vient de sortir. J'en ai trois. J'ai un premier ouvrage qui s'appelle Carnet de bord d'un marin au long cours, qui relate mes 20 premières années de navigation dans la pêche et à la marine marchande. Ensuite, je suis rentré à Ifremer, enfin à l'époque c'était le Snexo, en 1977. Et j'ai eu la chance donc entre autres de participer aux missions Titanic. Et ensuite, j'ai raconté donc dans mon dernier ouvrage qui vient de paraître au mois d'avril aux éditions Quai, qui est installée à Versailles, qui dépendent d'Ifremer, qui publie les ouvrages de l'Ifremer et de l'INRA en particulier. Donc j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de publier cet ouvrage qui relate mes 20 ans de campagne scientifique sur les navires de recherche de l'Ifremer. Comme chacun sait, Ifremer est à Brest.
Ça se base sur quoi?
C'est beaucoup de recherches au long cours sur la biologie, la géophysique, la géochimie, la sismique également, et puis les sciences de la Terre.
En fait, tous les deux, vous faites...
Oui, moi je parle surtout en tant que marin, dans mon livre, parce que je ne suis pas un scientifique.
Et donc en fait, ça se complète, en fait.
Ça se complète, oui. N'est-ce pas? Et je voulais signaler aussi que dans ce livre, je parle d'une mission particulière, qui a consisté à aller rechercher les boat people en mer de Chine avec le Jean Charcot.
Alors
c'est une mission qui était vraiment unique, parce que ce n'est pas habituel pour un navire de recherche de faire ce genre de campagne, avec Bernard Kouchner comme chef de mission, et Christine O'Crène également, qui était là également, et toute une kyrielle de journalistes. Alors nous avons récupéré lors de cette mission en 1985 520 boat people avec le Victor Schwelcher, le navire de l'Aviso escorteur de la Marine nationale, qui était également en assistance avec nous au large de Saïgon, à la recherche donc des boat people qui quittaient leur pays à ce moment-là. On les a emmenés, donc ces 520 boat people qu'on a récupérés en un mois de mer, on les a envoyés à Puerto Princesa, aux Philippines, dans un camp de hauts réfugiés, en attendant qu'ils aient un visa pour aller vers soit l'Australie, soit vers l'Amérique. La France, malheureusement, n'était pas très demandée par les Vietnamiens. Eux, ils préfèrent aller vers l'Australie plutôt que d'aller vers la France. Je pense que, c'est une anecdote. En 1982, comme chacun sait, avec Mitterrand avait dans son gouvernement des ministres communistes. Et les Vietnamiens, ils considéraient, dans leur esprit, ils entendaient dire qu'il y avait des ministres communistes en France. Ils assimilaient la France à un pays communiste. Alors quand ils entendaient à la radio qu'il y avait des ministres communistes dans le gouvernement français, ils n'étaient pas forcément demandeurs, étant donné qu'on nous assimilait comme la Russie, comme les autres pays. C'est pas vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais de toute façon, les communistes sont des gens bien comme les autres aussi.
Exactement. Alors voilà, je vais laisser se reposer un peu, parce que blanc, on va se retourner vers Pierre, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire?
J'ai quelques souvenirs, puisque j'ai dû participer à une petite partie du Tour du Monde du Charcot. En partant de Panama pour aller observer les fameuses sources hydrothermales, les sources chaudes à 13 degrés nord, c'est dans le Pacifique.
Hydrofast.
Et donc j'ai participé à la campagne Hydrofast, qui était une campagne de reconnaissance et de prélèvement sur la ride 13 degrés nord.
Vous pouvez vous faire un échange
en décembre 86, je pense.
pense qu'on était ensemble, puisque c'était une émission à laquelle j'ai participé.
Avec Henri Bouquet,
voilà. Et le commandant Girard.
Voilà, c'est ça.
Donc, on a navigué ensemble, finalement.
On a navigué ensemble. On ne se rappelait plus, mais on a navigué ensemble.
Quelle belle rencontre, vous voyez.
Donc, en décembre 86, on était en plein milieu du Pacifique.
Le Pacifique nord-oriental, à la recherche des sources hydrothermales.
Voilà.
Par 10 degrés nord de latitude.
À traîner des appareils un peu bizarres qu'on testait.
Oui, exactement.
Et ça a duré combien de temps, en fait?
Ça a duré 3 semaines, un mois.
Et j'ai encore une anecdote à raconter sur cette mission Hydrofast. Pendant la mission Hydrofast, nous avions un navire de recherche russe qui était à côté de nous. Il suivait tous les mouvements qu'on faisait. Quand on se déplaçait de 10, 20, 30 000 dans la zone, il faisait exactement comme nous, en restant à 5, 6 000 de distance. On a essayé de le joindre par VHF. Par radio.
J'ai parlé en russe.
Ah bon?
Je lui ai parlé en russe.
On n'a pas eu beaucoup de temps avec lui.
J'ai parlé en russe, donc il a répondu, mais il a juste donné son nom, il nous a souhaité bonne route et c'est tout.
Ah, oui. Mais il faisait de l'espionnage en quelque sorte.
Quasiment, ouais. En tout cas, il suivait beaucoup.
C'était un communiste, quoi.
On n'en sort plus, quoi.
Alors maintenant, parce qu'il nous reste 2 minutes, oui. Alors moi, je voudrais bien que chacun me raconte une histoire extraordinaire, la plus extraordinaire qu'ils aient pu vivre de leur vie, quoi, dans ce livre-là.
Moi, je peux, par exemple, raconter l'histoire de notre escale à l'île de Pâques, lors du Tour du Monde, où nous avons rencontré Thor Heyerdahl.
Yes.
Thor Heyerdahl, c'était le fameux navigateur qui avait...
Le
Kon-Tiki. Le radeau Kon-Tiki. Il avait voulu prouver que la civilisation qui était venue à l'île de Pâques provenait de l'Amérique du Sud. En réalité, malheureusement pour lui, par la suite, le carbone 14 a pu prouver que c'était pas... des habitants d'Amérique du Sud qui avaient été les premiers habitants de l'île de Pâques, mais bien des Polynésiens et en particulier des habitants des îles Marquises. Donc ce sont plutôt les Marquisiens qui sont arrivés les premiers à l'île de Pâques. Alors pendant qu'on était en escale là-bas, il séjournait à l'île de Pâques, il nous a raconté une aventure peu commune. Il était aux Marquises avec sa femme norvégienne Liv en voyage de noces, et puis ils avaient décidé de vivre dans la nature comme ça, loin du monde civilisé. Et il a vécu comme ça pendant une dizaine d'années aux Marquises, jusqu'au jour où il a décidé à un moment donné de quitter les Marquises pour venir à Tahiti, s'installer à Tahiti. Et il nous racontait que le jour où il a voulu quitter les Marquises, il faut croire que partout dans le monde entier, il y a quand même des douaniers français. Hein. Il y avait un douanier qui était là, aux Marquises, qui l'a vu avec un fusil. Il lui a dit « Non, monsieur, vous n'avez pas le droit d'embarquer votre fusil, puisque ce fusil, vous n'êtes pas de nationalité française, vous n'avez pas de port d'armes, donc je vous confisque le fusil. » Ce fusil avait appartenu à Gauguin. Il avait réussi à obtenir ce fusil d'un autochtone marquisien, parce que Gauguin chassait les chèvres dans les montagnes des Marquises avec ce fusil, et la crosse était sculptée de la main de Gauguin, magnifique, hein. Alors, il a eu une idée géniale. Il s'est dit, bon, puisque c'est comme ça, vous m'empêchez d'embarquer avec mon fusil auquel j'y tiens, je vais vous donner la crosse. Il a enlevé la crosse, il a coupé la crosse et il a gardé le... Et il a donc... Enfin, il a la crosse et le fût. Il a donné le fût au douanier et il a gardé la crosse sculptée. Comme ça, il n'y avait pas de litige.
Salut. Salut.
c'est
une belle histoire.
C'est une histoire magnifique. Hein.
Alors maintenant, le breton d'Herbière, est-ce qu'il a une aussi belle histoire? Je me douterais du contraire.
Non, d'histoire extraordinaire, pas vraiment. Quelques aventures ou mésaventures, oui. Peu communes, ça c'est sûr.
Le bruit, c'est normal.
Quelques aventures. Oui, en fait, non. J'ai les fameuses sources hydrothermales là, dont parlait Joss tout à l'heure. En fait, j'ai plongé dessus en 92 avec un bateau américain dans le cadre des missions Hero 92-93. Derrière américain, je sais pas, j'ai dû lui faire un drôle d'effet parce qu'on a commencé à plonger pour aller à 2500 mètres de profondeur et à 400 mètres, il y a eu une fuite dans le hublot. Donc on est remonté très rapidement et donc ils ont expliqué aux mes collègues, Daniel Desbruyères et ses collègues français, ont expliqué à leurs collègues américains que j'avais le mauvais œil et qu'il y avait un lapin à bord, mais ça ne s'est pas très bien passé. Voilà. Mais non, il n'y a pas d'avis. Et j'ai gagné un surnom, Lankou, qui m'a poursuivi dans pas mal d'endroits. Oui.
Alors moi, je voudrais savoir, parce que vous me permettez quand même tous les deux que je mette ça sur mon blog, n'est-ce pas?
Bien sûr.
C'est ça. Bon, alors voilà, je voudrais bien que vous disiez un mot de l'un à l'autre.
De l'un à l'autre. C'est-à-dire que pour moi, je pense que toutes les recherches que j'ai faites sur les bateaux d'Ifremer avec des chercheurs comme toi et d'autres, c'était merveilleux pour moi. C'était une aventure superbe. C'est les années les plus passionnantes de ma vie de marin. J'ai navigué pendant 40 ans sur les mers du globe, mais je pense que c'est les années les plus exaltantes de ma navigation au contact des chercheurs de l'Ifremer et du CNRS et d'autres labos, que ce soit français ou étrangers. C'était magnifique. J'en garde un excellent souvenir. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ça par écrit dans le dernier livre que je viens d'écrire.
Et toi, Pierre ?
Je suis d'accord, parce qu'en fait, nous, scientifiques, on a nos objectifs, mais on est aussi des invités à bord. Et quand, disons, la mayonnaise prend, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a partage et apprentissage mutuel. Donc, c'est-à-dire que nos objectifs à nous deviennent les objectifs de l'équipage, et les problèmes de l'équipage sont aussi les nôtres pour nous donner des limites. Et quand on arrive à vraiment travailler ensemble, ces limites, on arrive à les dépasser. Et ça, c'est une aventure extraordinaire. C'est une super aventure humaine.
Alors moi, je le remercie parce qu'en fait, ce scoop, c'était pas prévu. Il ne devait pas se rencontrer. Et en fait, j'ai vu mon ami Pierre qui arrive. Et puis j'ai dit, on va les faire tous les deux. Vous voyez ce que ça donne. Merci.
Voilà. Très bien.